baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel, vous écoutez l'émission Baroque ou classique, l'art français au XVIIe siècle, que Philippe Frétinier nous détaille depuis un certain nombre d'émissions déjà. Alors la dernière fois, Philippe, nous étions arrivés, vous aviez évoqué trois choses importantes autour de la sculpture française, Versailles, qui en comporte beaucoup, la querelle des anciens et des modernes, sur laquelle vous reviendrez peut-être aujourd'hui, mais surtout, vous avez commencé à nous parler de la troisième période de la sculpture française. Alors peut-être pouvez-vous commencer par nous repréciser un tout petit peu rapidement ce que sont les trois périodes de la sculpture française au XVIIe.
Il y a une première période qui est vraiment au tout début XVIIe, c'est-à-dire dans une tradition ininterrompu, puisque j'ai rappelé qu'en France, il y avait une grande tradition de sculpture. C'est ce qui rend d'autant plus insolite le fait que, par exemple, sur la sculpture française au XVIIe, il n'y a pratiquement pas de bibliographie. Ça, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Il se trouve que, au début du XVIIe, la sculpture est vraiment dans la filiation classique, entre guillemets, des grands sculpteurs de la Renaissance, Jean Goujon, Germain Pilon. Alors ça, c'est vraiment la première partie, le début de la sculpture française au XVIIe. Et très vite, il va y avoir une deuxième période qui va d'ailleurs correspondre en gros ce qu'on appelle à la première équipe de Versailles, puisque évidemment, dans cette première moitié du XVIIe, il y a un mouvement comme celui dont j'ai parlé dans la peinture, c'est-à-dire que les sculpteurs français vont aller beaucoup, la plupart d'entre eux, à Rome. J'ai parlé des frères Anguier, de Tubi, dans la dernière émission. Parce que comme pour les peintres, tout se passe à Rome. C'est là qu'il y a à la fois les statues classiques, celles de l'Antiquité, qui ont commencé à être mises au jour, à la Renaissance et que les papes ont collectionnées. Et puis, donc c'est le moyen d'étudier, d'aller aux sources. Et puis, il y a des sculpteurs importants, comme par exemple le Bernin. J'ai parlé aussi de l'Algarve, je crois, j'ai parlé de... Voilà. Et donc, tous ces gens-là vont aller à la fois pour voir sur place les sources et en même temps au contact de grands sculpteurs qui vont les marquer durablement. Et on va retrouver l'influence du Bernin chez un bon nombre de sculpteurs français du XVIIe, parce que c'est vraiment le très grand sculpteur. Certains sculpteurs vont être impressionnés, je pense à Tubi justement, par la place du Capitole et la statue de Michel-Ange. Cette première équipe, qui avait représenté notamment par les sculpteurs dont j'ai parlé la fois dernière, c'est-à-dire Jacques Sarrazin, les frères Anguier. Pour mémoire, Michel Anguier, c'est celui qui fait les décors à la chapelle du Val-de-Grâce, monument que je ne cesse de célébrer, même ici, parce que c'est vraiment le plus beau monument du XVIIe à Paris. Dieu sait qu'il y en a, c'est pas le seul, mais celui-là est vraiment numéro un sur ma liste personnelle. Toute cette école va vraiment, avec Philippe de Buster, dont j'ai dû parler aussi la dernière fois, si ma mémoire est bonne, ils vont vraiment sculpter des éléments très importants. Par exemple, je pense à Sarrazin pour le Louvre, pour les statues décoratives des façades du Louvre, qui est construite à ce moment-là, cette partie du Louvre qui est construite par Jacques Le Mercier, c'est-à-dire le prolongement de l'aile construite par Lescaut, qui est le début du grand dessin, pour faire ce qui deviendra la cour carrée. Donc Jacques Le Mercier fait un pavillon central qui est vraiment de sa facture. Et puis, de l'autre côté, en symétrie, il fait un pastiche de l'aile Lescaut. Mais comme à cette époque-là, les gens ont du talent, le pastiche est
aussi bien que l'original.
Voilà, donc quand on est dans la cour, on ne voit pas d'hiatus entre les deux ailes, comme on aurait pu le voir si ça avait été fait au 19e, par exemple. C'est aussi eux qui vont travailler aux sculptures du parterre du Rondeau à Versailles, parterre qui disparaîtra puisque au fil du temps, les transformations sont incessantes à Versailles. Hein, et des fois, en faisant disparaître d'ailleurs des monuments qu'on aimerait bien avoir aujourd'hui. Par exemple, la fameuse grotte de Tétis, qui était aussi... Oui,
dont on a trace que dessinée, finalement.
Voilà. Qui était d'ailleurs destinée aussi à cacher une partie du système de pompe pour les eaux de Versailles. Et puis, bon, le Trianon de porcelaine, dont on a quelques morceaux de poterie, qui nous font nous dire que ça devait être très beau. Cette première équipe, finalement, il n'en reste pas tant que ça à Versailles, puisque justement...
Malgré le nombre de pièces sculptées du parc, il en reste...
Oui, mais là, on est vraiment dans les débuts du règne de Louis XIV. Hein. C'est-à-dire que les travaux du château ne sont pas encore lancés. On commence par travailler sur le parc. Hein. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on commence par travailler sur le parc, c'est probablement, si vous vous souvenez bien, quand j'ai parlé de l'architecture et que j'ai parlé de Versailles, cette relation filiale de Louis XIV,
oui, bien sûr,
qui tergiverse parce que, évidemment...
C'est le château de son père, quand même.
Voilà, il est pressé par son entourage, puisqu'il a exprimé sa volonté de construire à Versailles, de faire table rase, ça serait tellement plus simple. Et puis finalement, non, hein, puisque encore une fois, le château de Louis XIII est toujours là, et quand on est dans la cour de marbre, même s'il y a quelques modifications, en fait, ce qu'on voit, c'est le château Louis XIII. Donc, c'est pas par hasard, c'est probablement si ça commence par le parc. Et en plus, je pense qu'il faudra qu'on en parle par la suite. Deux éléments importants auxquels on ne pense pas toujours dans l'histoire des arts, en tout cas en première lecture, c'est que les jardins sont le décor des fêtes. Alors, je rappelle essentiellement, hein, je crois l'avoir déjà dit, mais les trois fêtes, hein, les plaisirs de l'île enchantée en 1664, le grand divertissement royal en 1668, et le rattachement de la Franche-Comté en 1674. Ouais,
vous en aviez d'autant plus parlé que c'est retracé par un Chartrain.
Voilà.
Félibien.
Ça nous est bien connu par Félibien, ouais. qui a fait un ouvrage sur les fêtes de Versailles. Après, il n'y a plus de grandes fêtes comme celle-là. D'abord parce que un peu plus tard, le règne de Louis XIV va s'assombrir avec un certain nombre de conflits, la guerre de dévolution, la guerre de succession d'Espagne, pardon. Et puis la fin du règne de Louis XIV est très sombre parce qu'il y a tous les deuils qui le frappent, puisque son fils, ses petits-fils, enfin en tout cas son fils, le monsieur le grand dauphin, et puis son petit-fils, le duc de Bourgogne, disparaissent, meurent. C'est bien pour ça qu'on saute, quand on arrive à Louis XV, on saute tant de générations, parce que c'est l'arrière-petit-fils. Les fêtes vont se ralentir, mais jusque dans les années 1680, en gros, on pourrait presque tourner autour de la mort de Colbert, qui meurt en 1683, alors que la cour s'est installée en 1682. Je vais parler de 1683 parce que c'est l'arrivée de Louvois qui va faire une commande dont je reparlerai après.
Mais qui introduira la troisième période.
Voilà. Donc, vous voyez, j'ai quand même, malgré tout, je suis mon idée. Les fêtes ont une part très importante et d'ailleurs, les artistes sont conviés à créer des décors pour les fêtes. J'ai déjà parlé de Lebrun en tant qu'ornemaniste. Je pourrais parler aussi d'autres ornemanistes. Je les cite comme ça pour mémoire, pour nos auditeurs. J'en parlerai pas plus que simplement d'évoquer leur nom, mais des familles comme les Bérin, les Audran, qui sont très réputées, très connues. Et donc, on crée, puis il y a les décors de Vigarini aussi. Enfin bon, on crée des décors extraordinaires pour les fêtes, avec des fois des éléments durables, d'ailleurs, que sont les statues. C'est-à-dire que les sculpteurs vont travailler sur des statues qui vont servir pour les fêtes et qui seront replacées après dans le parc. Mmh. Il y a, à partir du moment où Louis XIV lance ses grands projets à Versailles, d'abord le parc et puis ensuite la construction du château, il y a évidemment un besoin de sculpture pour le parc. Et c'est dans la période ascendante de Louis XIV, en gros celle qui va aller jusqu'au traité de Nimègue en 1678, qui consacre le roi comme le plus puissant, le monarque le plus puissant d'Europe. Alors, c'est intéressant parce que justement, ça marque, ça borne un peu la deuxième période, où on a des sculpteurs comme Girardon, Coysevox, enfin des grands sculpteurs. Coysevox a beaucoup fait de bronze et il est connu notamment pour un buste de Louis XIV qui est dans le grand salon à Versailles. Et il y a aussi des sculpteurs comme Puget, qui est un grand sculpteur. Et Puget, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça met vraiment à bas l'histoire de baroque ou classique. Je reviendrai, je vais faire un détour sur Puget tout à l'heure. Coysevox, par exemple, alors tous ces sculpteurs-là vont, pour la plupart, Gaspard Marcy aussi, que j'ai oublié, vont faire le voyage à Rome. Coysevox va y aller beaucoup. Ils vont être évidemment très influencés par leur séjour à Rome. Et cette période-là, c'est vraiment une période où on va quitter progressivement dans le projet politique, parce que c'est évidemment un projet politique en même temps qu'un projet artistique, on va quitter les rivages de la mythologie pure pour s'en aller petit à petit vers le mythe d'Apollon, qui est évidemment une métaphore de
Louis XIV.
De Louis XIV. D'ailleurs, on le voit très bien dans la Galerie des Glaces, avec le grand projet de Lebrun qui a été réalisé, où il y a un mélange de mythologie et d'épisodes concernant Alexandre pour bien montrer que le nouvel Alexandre, finalement, c'est Louis XIV. Et comme Alexandre, il est le grand ordonnateur du monde.
Alors, on va revenir à ça juste après une pièce musicale que vous allez nous présenter.
Alors, il s'agit de... j'aurais pu choisir de la musique profane, mais en même temps, à Versailles, il y a eu beaucoup d'occasions de composer de la musique religieuse avec des grands compositeurs. Et donc, on va écouter un motet de Marc-Antoine Charpentier, Alma Redemptoris Mater, chanté par...
Par René Jacobs.
Par René Jacobs. Qui pour moi reste encore aujourd'hui inégalé.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Ciel pour l'émission Baroque ou Classique, l'art français au XVIIe siècle, en compagnie de Philippe Frétinier. Vous nous disiez, Philippe, juste avant la pause musicale, de ce très beau morceau de Charpentier interprété par René Jacobs. On peut le redire, hein, parce que c'est quand même très beau. Vous nous parliez d'Apollon, de sa présence dans le parc de Versailles, au moment de, justement, la seconde période de la sculpture française dans ce grand siècle.
Oui. Je fais une petite incise parce qu'il y a quand même deux ou trois sculpteurs de la première époque que je n'ai pas cités, dont je vais donner les noms, puis je reviens à la deuxième période, mais des sculpteurs vraiment intéressants qui sont dans la tradition de Goujon et de Pilon dont je parlais, c'est-à-dire Jean Varin, Thomas Boudin et Michel Bourdon. Hein.
Donc, c'est vrai que vous disiez qu'il manquait des monographies sur les sculpteurs de cette époque-là. Il y a très très peu de choses. Non. Il y a quelques ouvrages sur le parc de Versailles qui donc effectivement montrent les sculptures, mais il y a très peu de choses très approfondies, très intéressantes sur ce sujet. C'est vrai.
Alors, j'en profite pour faire une deuxième incise pour l'attention de nos auditeurs. Je pense qu'il n'est pas disponible en ce moment, mais il va sûrement être édité si c'est le cas. Il y a un excellent ouvrage d'Alexandre Maral, qui est conservateur à Versailles, archiviste paléographe, où justement on parle de la sculpture à Versailles. Ça, c'est vraiment un ouvrage que je recommande vivement. Et puis, il y a un deuxième ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Parcours mythologique dans les jardins de Versailles ». Et qui est vraiment très très bien fait, parce que, évidemment, qu'il n'est pas question, c'était plutôt un opuscule, c'est un petit livre, donc il n'est pas question de recenser toutes les statues du parc, puisque j'ai dit qu'on n'était pas loin du millier, mais il y a un certain nombre de figures importantes de la mythologie qui sont représentées en photo, avec un petit synopsis sur ce que ça signifie dans la mythologie, et puis des notes du point de vue de l'artiste. Enfin, donc c'est un très bon ouvrage et on peut aller se promener avec ça dans le parc de Versailles en complément de la manière de montrer le jardin de Versailles par Louis XIV et c'est formidable. Je ferme la parenthèse et donc je reviens à la deuxième époque où on va vraiment, ça va être vraiment l'époque entre guillemets du retour au classique et pas au classicisme parce que ça c'est à bannir. Parce que la première période dont j'ai parlé, petit à petit, on va trouver qu'elle a un goût trop italianisant. Hein.
Et c'est pas assez français, vous parliez de la dimension politique.
Ah ben voilà, c'est ça. C'est...
Bien sûr.
Donc, c'est une constante qui d'ailleurs a commencé sous Louis XIII avec Mazarin, même Richelieu, hein, et puis Mazarin, Sublet des Noyers.
Oui, vous l'aviez dit, notamment à propos de l'architecture.
Voilà, les fameux frères Fréard, puis pour la peinture aussi. Hein. Et donc... il va se passer la même chose dans la sculpture. Et d'ailleurs, Sublet des Noyers, quand il envoie les frères Fréard, frères de Chambray et frères de Chanteloup à Rome, si ma mémoire est bonne, c'est en 1648, avec le projet de rapporter des copies des œuvres et puis de faire venir des artistes en résidence à Rome, à Paris. C'est l'histoire du fameux voyage de Poussin qui aura lieu après.
Sûr, ouais.
Il y a vraiment cette volonté d'aller puiser aux sources des classiques, de revenir aux sources classiques, et à tel point que d'ailleurs Sublet des Noyers va pensionner un peintre-architecte qui s'appelle Charles Erard, alors qui n'est peut-être pas connu du grand public, mais qui est envoyé pour faire des dessins, parce qu'il est donc peintre, des dessins de sculptures, avec vraiment un projet de diffusion, puisque ces dessins sont faits pour être gravés. Alors, c'est pas... À l'époque, les graveurs sont le plus souvent, sauf exception rarissime comme Rembrandt, qui travaillait ses cuivres lui-même, mais les graveurs sont des artistes exécutants par rapport aux dessinateurs et aux peintres qui fournissent...
Considérés comme des artisans, même à l'époque.
Voilà, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais parlé du vernis mou qui facilite le report des dessins. Bon. On va envoyer non seulement Charles Erard, mais on va même envoyer des sculpteurs avec pour mission de rapporter des copies... parce que c'est la source, mais surtout aussi parce que les papes commence à limiter sérieusement l'exportation des statues classiques parce qu'ils veulent se les garder. L'alternative, ce sont les copies. Donc il y a plusieurs sculpteurs qui vont aller à Rome, qui vont faire des copies. Pour la plupart, pensionnaires de la fameuse Académie de France, dont j'ai déjà dit qu'elle préfigurait la Villa Médicis. Alors c'est pas au même endroit, c'est pas le même lieu. Mais c'est bien de cela dont il s'agit. Et donc évidemment, c'est un tournant par rapport à la première période. Dans les sources, donc l'inspiration, il y a ce tournant politique qui va se prendre, c'est-à-dire qu'on va quitter, encore une fois, les rivages de la mythologie pour s'en aller vers la fable et puis la glorification du roi. Et ça va commencer relativement tôt par rapport au règne de Louis XIV, puisqu'il va y avoir la petite commande en 1664, dont il ne reste rien, que j'ai mentionné tout à l'heure. Avant la fameuse grande commande de 1674, dont je crois avoir déjà parlé la dernière fois, qui est un ensemble considérable dont on peut toujours voir les statues dans le parc de Versailles. D'ailleurs, cette volonté vraiment politique, on la retrouve à travers l'Académie de peinture et de sculpture qui est fondée en 1648. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il va y avoir trois conférences sur le Laocoon du Belvédère, dont l'une par Jacques Sarrazin, justement, donc un grand sculpteur. Et le développement de ces conférences, quand on les lit, montre bien que pour ces sculpteurs qui font des conférences sur ce groupe sculpté qui va avoir une fortune critique extrêmement importante au XVIIe siècle, c'est vraiment le modèle. Aussi bien parce qu'il rend vraiment la vérité de la nature, qu'en même temps, il comporte tous les canons de l'art classique grec. Et ça, c'est vraiment fondateur, c'est vraiment un grand moment. Et tout ça se déroule dans le cadre de l'Académie de peinture qui a été voulue pour ce faire. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que ça marche assez bien dès le début avec la sculpture, ça marche beaucoup plus mal avec la peinture, puisque Colbert est obligé d'un peu de rappeler à l'ordre les peintres pour qu'ils fassent des conférences. On aura après des conférences de Philippe de Champagne, mais au début, ils ne se pressent pas pour faire des conférences sur leurs collègues. Donc, ça, c'est vraiment donc la deuxième période. Et puis, politiquement, la fin du règne va évidemment être beaucoup moins faste que cette période ascendante jusqu'en 1678. Alors, en 1683, Colbert meurt, il est remplacé à la surintendance des bâtiments par Louvois. C'est une commande importante qu'on pourrait qualifier de troisième commande, d'un grand nombre de statues pour le parc, dont les modèles vont être dessinés pour la plupart par Lebrun, dont certaines statues vont être ébauchées, les projets vont être affinés par certains sculpteurs. J'en profite pour dire qu'à l'époque, mais c'est vrai ultérieurement, dans le cadre Rodin, ce que je vais dire, c'est que la plupart du temps, les sculpteurs ne sculptent pas les marbres que l'on voit et qu'on leur attribue néanmoins à juste titre. Ils font des modèles en cire, et puis il y a des artisans qui, d'après le modèle, eux, font le travail difficile de sculpter le marbre. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce n'est pas propre au XVIIe, puisque c'est le cas de Rodin aussi. Pour l'anecdote, dans le cas de Rodin, je signale que l'une de ses petites mains, c'était Pompon.
Oui, absolument. Oui. Un sculpteur animalier bien connu, quand même.
Oui, dont on peut voir d'ailleurs des œuvres au musée d'Orsay.
Ouais. Alors, on va conclure cette émission. Bien entendu, la prochaine, on reprendra et détaillera cette troisième commande, troisième période pour le parc de Versailles. On parlera aussi des anciens et modernes, sans doute. Mais vous nous avez choisi également une autre pièce, je crois aussi de Charpentier, d'ailleurs, pour conclure l'émission.
Oui, parce que j'ai vraiment envie de partager avec nos auditeurs cette musique religieuse absolument sublime de Charpentier. Il s'agit du Salve Regina, toujours par René Jacobs. Thank you.
Radio Grand Ciel.